Émission Mangeuse, on parle énormément de politique municipale parce que la ville de Québec, c'est votre ville et on veut que ça se passe bien. Mais on regarde également toujours ce qui se passe au sud de la frontière parce qu'il y en a des choses invraisemblables qui arrivent et surtout ce qui se produit présentement au Minnesota avec deux personnes qui ont été abattues par la police ICE depuis deux semaines là-bas. Et pour en parler avec nous, on a l'excellente chroniqueuse en politique américaine, Valérie Beaudoin. Valérie, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Avec plaisir.
Valérie, est-ce que tu sens que l'organisation Trump commence à reculer sur son offensive des policiers ICE au Minnesota avec les commentaires qu'on a entendus hier?
Oui, mais là, on voit que c'est assez fragile, hein, tout ça, parce que, hier, on disait, puis même avant hier, qu'on avait des constructions, des discussions constructives, j'allais faire comme l'inverse, des discussions constructives avec les élus démocrates du Minnesota, avec le gouverneur Tim Walz, qui d'ailleurs, là, pour rappeler à vos auditeurs, était le coulissier de Kamala Harris pendant la campagne électorale, avec le maire de Minneapolis. Bref, ça semblait être de bon augure. On avait tassé un des responsables des opérations de ICE qui était très problématique, je veux dire ça comme ça. Donc, on avait dit qu'on allait retirer certains agents et tout ça. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que finalement, Donald Trump dit que le maire de Minneapolis joue avec le feu. Hein. Alors, ce qu'on dit, c'est que peut-être la paix serait fragile entre les deux parce que le maire de Minneapolis a rappelé que lui, il ne voulait rien savoir d'appliquer les lois de Trump sur l'immigration dans sa ville. Alors, il a dit, moi, je n'ai pas demandé à mes agents d'appliquer ça, oubliez ça. Donc là, Donald Trump, il dit, attends, là, des gens de son cercle, pouvez-vous lui dire qu'il est en train de jouer avec le feu? On a eu des bonnes discussions, mais là, le fait qu'il dise ça, il est en train de, justement, s'opposer à des lois fédérales. Bref, on sent une désescalade, mais est-ce que la désescalade est vraiment là pour rester? Je pense que politiquement, pour Trump, il faudrait vraiment qu'il y en ait une.
Il y a des gens qui se demandent aussi s'il ne va pas perdre. On parle de perdre sa base, mais en ce moment, il y a bien des gens qui voient rouler l'économie, oui, certes, assez bien dans certains secteurs, mais dans d'autres, extrêmement complexes, avec la fin, en fait, des réserves qu'ils avaient mis de côté en achetant canadien avant l'imposition des tarifs. Ça va faire mal aussi à ses supporters. Est-ce qu'on est en train de voir peut-être le règne de Donald Trump s'effriter parce que là, il y a bien des gens qui prennent une nouvelle position face à l'homme?
Bien, je pense que sa base, tout ce qui se passe avec ICE, sont d'accord. En général, là, si je vois les commentaires sur les réseaux sociaux, si on parle de sa base, là, même s'il y a eu mort d'homme et tout ça, là, c'est pas, ils sont vraiment du côté de Donald Trump par rapport à cette stratégie aussi controversée et agressive soit-elle. Les Américains, en général, par rapport à tout ce qui est immigration, on semble être de moins en moins d'accord avec les tactiques du président. Et pour ce qui est de l'économie, c'est là que c'est beaucoup plus large. Là. Pour l'économie, en général, les gens disent que ça va mal. Ça se passe pas bien. Ça se passe pas de façon désastreuse, mais il n'y a pas non plus d'amélioration de leur sort. Et si on se souvient, en campagne électorale, il avait promis que on va abaisser le coût de la vie, l'épicerie, ça va coûter moins cher, l'essence, se loger, etc., etc. Et finalement, ben, sondage après sondage, ce que les Américains disent, c'est que leur situation est soit restée la même ou elle est pire qu'elle était. Puis à un moment donné, on peut pas juste mettre la faute sur l'ancien président. Là, c'est toujours la tactique là, pour un président, que ce soit démocrate ou républicain, de mettre la faute sur l'autre. T'sais, je veux dire, ils l'ont tous fait, mais ça fait quand même un an et il y a eu de grosses promesses. Donc ça, c'est vraiment le dossier qui fait mal aux républicains. C'est ce qui pourrait peut-être faire qu'ils vont perdre les élections demi-mandat qui sont en novembre prochain. Juste dire que Trump n'est pas sur le bulletin de vote, mais c'est comme un peu un référendum sur sa présidence. Donc, est-ce que les républicains vont perdre le contrôle du Congrès en novembre? Si les élections étaient demain matin, je serais plutôt confiante pour les démocrates.
Il y a quelque chose quand même qui peut être inquiétant, c'est de voir des gens aller se loger dans les extrêmes. Hein? Bon, 100% pour une immigration non contrôlée, non régie, etc. Et de l'autre côté, ben 100% contre une immigration, peu importe, qui vient à bon port puis participe à l'économie d'une belle manière, de façon humaine. Est-ce qu'on est en train de voir justement ces deux clans-là prendre plus de force ou on a encore espoir d'avoir la zone grise?
Je te dirais qu'il y a quand même pas mal de zones grises, surtout dans les dernières années, parce que il y a vraiment eu là, beaucoup, beaucoup d'immigration irrégulière à la frontière les dernières années avec Joe Biden. On voyait là, il y avait vraiment un flux de migrants qui n'arrivaient pas ici, ils n'arrivaient pas aux États-Unis, je veux dire, par les voies légales. Donc ça, il y a des gens qui voulaient une frontière qui est moins poreuse, hein, qui est plus qui est fermée, entre guillemets, là, qui est peut-être pas nécessairement fermée, mais avec une meilleure surveillance, une meilleure sécurité et tout ça. Ça, il y avait quand même pas mal d'Américains qui étaient d'accord avec ça, même pour les démocrates pendant la campagne électorale. Pardonnez-moi l'anglicisme, mais c'est un peu touchy. Là. C'était, on ne voulait pas trop être juste pro-immigration à 100%, avec, à part pour certains, je dirais, élus plus à gauche, là, mais en général, on essaie de se situer à peu près au milieu. Alors, il y a beaucoup d'Américains qui étaient d'accord avec le fait d'expulser des migrants, mais des migrants dangereux, hein, parce que c'était ça, la campagne électorale. Hein. C'était toujours les violeurs, les gens de gang, mm-hmm. Les gens des cartels, les
ceux qui mangent nos animaux de compagnie.
Oui, mon Dieu, j'avais oublié ça tellement que c'est quoi, the cats and dogs, ça c'était...
Que de bons souvenirs, Pascal, merci, c'est donc bien gentil de nous rappeler ça.
Ça fait vraiment pas plaisir.
Écoute, je retourne dans les souvenirs de campagne électorale, peut-être que j'avais voulu effacer.
Ouais, moi aussi j'avais effacé ça de ma mémoire, Valérie.
Un vidangeage inconscient.
C'est ça, mais par rapport à l'immigration, tu sais, les gens étaient d'accord en général, là, je te dirais autour de peut-être quoi, un genre de 60% qu'il fallait expulser certains migrants. Mais finalement, c'est pas ce qu'on voit. Tu sais, ce qu'on voit, ça va être par exemple une mère de famille qui va chercher ses enfants à l'école, qui peut être interpellée. C'est des gens qui disent que c'est même dans les écoles. Les enfants veulent plus aller à l'école parce qu'ils ont peur. On va plus à l'hôpital pour les rendez-vous médicaux aussi, ce qui est très dangereux. On sort pas de la maison pour l'épicerie. Les Américains, je veux dire, qui ont une citoyenneté, là, tout est en règle, qui ont une couleur de peau qui est différente, qui parlent avec un accent ou qui parlent espagnol, ben là, ils ont peur de justement se faire interpeller. Alors, il y a tellement de débordements, de violences aussi, qu'on a vu, les événements de Minneapolis, du Minnesota en général, qu'ils perdent là, ce côté-là. On va trop dans les extrêmes, justement. Alors, oui, la zone grise est encore là, mais dans la zone grise, on se dit, c'est pas parce qu'on veut qu'il y ait une meilleure, comment dire, réglementation autour de l'immigration qu'on veut que les gens meurent sous les balles de ICE et qu'il y ait des familles qui soient complètement séparées. Et c'est des gens quand même s'ils ont des fois des situations régulières, il y en a qui sont en processus de demande d'asile, ils ont comme tout fait en règle, puis finalement, bon, on dit, ben non, même si tu fais en règle ton processus d'asile politique et tout ça, ben on t'expulse dans ton pays d'origine. Donc, il y a une frustration quand même grandissante par rapport à ça.
Valérie, en terminant, les États-Unis sortent de leur plus long shutdown budgétaire qui s'est produit à la fin de l'automne, début hiver, et là, on pourrait y retourner en raison qu'il y a énormément d'élus qui ne veulent pas financer de façon additionnelle la police ICE et même des sénateurs républicains. Est-ce qu'on s'en va vers un deuxième shutdown en quelques mots aux États-Unis?
C'est mon psychodrame qui revient très, très souvent. Cette menace d'un shutdown, là, à chaque fois qu'il faut voter un budget, on est toujours sur le bord de. Mais oui, c'est quand même sérieux, cette possibilité d'avoir une autre paralysie budgétaire. Oui, tu as très bien raison de le mentionner. C'était le record, là. C'est 43 jours cet automne, cette paralysie budgétaire. Pourquoi? Parce que là, en ce moment, justement, les sénateurs disent, ben là, on va pas voter pour un budget qui inclut de l'argent pour le département de la sécurité intérieure. On veut par geste un peu de pas de solidarité, mais de boycott, ou envoyer un message politique, dire ben on va voter pour un budget là, comme c'était prévu, mais séparer le budget pour la sécurité intérieure, et comme ça on va éviter un autre shutdown, une autre paralysie. Est-ce que c'est ce qui va arriver? Ben peut-être que oui, parce que sinon ça risque d'être difficile, voire impossible de faire passer le budget, parce que les républicains ont besoin en fait de tous voter dans la même direction, et en plus au Sénat d'avoir des votes démocrates. Et en ce moment, c'est vraiment pas ça qui se passe. Au contraire, on parle de destitution de la secrétaire à la sécurité de l'intérieur. On met de la pression sur le gouvernement. On n'est vraiment pas en mode on se tient la main. On est tous très heureux ensemble de ce qui se passe là.
Valérie Beaudoin, chroniqueuse politique et chercheuse associée au très reconnu observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Valérie, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Toujours très pertinent tes commentaires.
Avec grand plaisir. À bientôt.
Merci, à bientôt. Valérie Beaudoin, une analyste politique qu'on adore ici sur les ondes de Boulevard 101, que vous entendez à l'occasion de l'émission On en jase.
Le midi, On en jase à Boulevard 101.